말이 구식이 마음에 오나 이 TV
que les Tchékars ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais de chance.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Évasion, 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 effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit ont dû s'échapper de la prison.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Salut.
Salut. Bonsoir.
Vous êtes bien sur Radio Kaléidoscope 97 FM et c'est Les Murs ont des oreilles, une radio anticarcérale qui diffuse tous les troisièmes mercredis du mois de 19h à 20h. Du coup, ce soir, on va vous parler un bon dossier sur les longues peines avec des témoignages, des analyses et les parcours judiciaires de prisonniers longue peine, de comment t'arrives à passer 20, 30 ans en prison. Ensuite, on aura une chronique sur la thème du mur, et on parlera aussi de la prison et de la répression en Tunisie. Voilà, et puis, comme d'habitude, des brèves et de la musique.
Et on redonne les coordonnées de l'émission ?
On redonne les coordonnées de l'émission, tout à fait. Donc, si vous voulez nous écrire... c'est possible à la boîte postale de Radio Kaléidoscope, donc Les Murs ont des oreilles, Radio Kaléidoscope, boîte postale 422, Grenoble 38018. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à l'adresse suivante, lesmurs, tout attaché, @riseup.net, R-I-S-E-U-P.net. On a aussi un blog, si vous voulez... télécharger les émissions et les écouter en direct. Le blog, c'est lesmurs-ont-des-oreilles.noblogs.org. On peut commencer.
On peut commencer. Du coup, on va commencer en parlant des longues peines, puisque c'est un peu le dossier de ce mois-ci. Et d'abord, on va écouter un petit extrait d'interview de Jean-Marc Rouillant, qui est très rapide.
Quand on a été condamné à perpétuité, la peine moyenne à la perpétuité était de 17 ans. Aujourd'hui, il est de 24 ans. Et on dit qu'on va toujours vers plus de civilisation. Non, c'est pas vrai. La prison, c'est une torture, lente, c'est une mort lente. Il y a de plus en plus de gens qui meurent en prison parce que depuis que la peine de mort a été éliminé, et c'est bien, et c'est juste. On a inventé, soi-disant, des peines alternatives à la peine de mort, et on fait mourir de plus en plus de gens en prison. En fait, la prison est une usine à délinquants.
Voilà, donc, cette citation de Jean-Marc Ruyant, donc Jean-Marc Ruyant, dont un ancien prisonnier, donc longue peine, puisqu'il a été incarcéré en tout 23 ans entre 1987 et 2011, donc il sait quand même de quoi il parle. Et cette citation, c'était pour résumer un peu le contexte de qu'est-ce que ça fait d'être prisonnier ou prisonnière longue peine en France, et notamment donc avec les évolutions qu'on a connues depuis les années 80, où les peines sont de plus en plus longues, et qu'il y a du coup de moins en moins d'espoir de s'en sortir. Et du coup, dans le cas des longues peines, la fonction d'élimination sociale de la prison est particulièrement flagrante. On n'est pas du tout dans les logiques de réinsertion proclamées par les politiques humanistes. Et d'ailleurs, quand on parle d'élimination sociale, on n'exagère rien du tout. C'est un terme qui a été utilisé par un procureur lors du procès de Philippe Lallouel l'année dernière. Donc Philippe Lallouel, on en a déjà parlé dans cette émission. C'est une personne qui a fait déjà plus de 20 ans de prison pour un ensemble de peines. En tout, il avait été condamné à 95 ans de prison, mais dans sa grande générosité, la justice a ramené ça à 25. Donc il était sorti en conditionnel en 2009, dans des conditions qui étaient insupportables. Du coup, il a commis un braquage dans une agence postale avec une arme pas chargée. Donc voilà, un des exemples de comment, quand on sort d'une longue peine du prison, qu'on se retrouve seul, sans argent, sans pouvoir voir ses proches, on se fait assez vite rattraper par la spirale judiciaire. Et du coup, cette spirale judiciaire, elle l'a pas fait de pitié, puisque donc l'année dernière, il a été à nouveau condamné à 20 ans de prison en première instance, alors qu'il est atteint du sida, qu'il a déjà passé 26 ans de sa vie en prison. Donc il avait fait appel de cette décision, et donc ce procès en appel se tenait le 31 janvier dernier. Et donc le juge et les jurés ont décidé d'en remettre une couche, puisqu'ils l'ont condamné à 17 ans de prison. Donc ce qui correspond quasiment à la prison à vie, ou plutôt à de la prison à mort dans son cas. Donc il y a un texte qui a été écrit par des proches et qui résume bien à la fois ce procès et les enjeux de ces longues peines, et du coup je vous propose de l'écouter.
C'est avec une tristesse profonde et une rage indicible que nous, amis de Philippe Lallouel, nous adressons à vous pour la dernière fois. Ce que nous annoncions sans illusion s'est réalisé sous nos yeux. Une exécution publique. Après 1h30 de délibéré seulement, les jurés sont revenus la tête haute, toute honte bue, et le verdict est tombé comme tombe le couperet d'une guillotine. 17 ans. Ces 17 ans s'ajoutent aussi ce qui lui reste à endurer. Sa date de sortie, 2037, à 73 ans. Nous espérons que le fantôme de cet homme viendra hanter leur nuit pendant les 23 prochaines années. Le mépris de la cour a été jusqu'à prononcer cette sentence, alors même que la quarantaine d'amis de Philippe n'était pas encore rentrée dans la salle. Les policiers, chargés des contrôles et des fouilles, faisaient preuve d'une lenteur calculée et d'une agressivité sans bornes. Une rangée de flics haineux nous séparait de notre ami et nous ont évacués sans ménagement, sans même nous laisser lui dire adieu. Là encore, c'est Philippe qui nous a donné à tous et toutes une leçon de vie. Nous étions privés de mots par l'horreur, effondrés de douleur et de rage, et c'est lui qui nous a réconfortés. Merci d'être là, lâchez rien. Ce soir, restez ensemble, mangez ensemble. Vous en faites pas pour moi. Nous, amis de Philippe Lallouel, avons tenté de faire franchir aux jurés, à la cour, au public de Montauban, la barrière qui les sépare de ce que la justice nomme un criminel. Cette démarche, présentée par la juge comme une tentative d'exercer une pression sur les jurés, a en réalité changé la teneur du procès, en obligeant la cour à laisser la place à Philippe et à ses témoins. Ils ont tenté ensemble de faire comprendre ce qu'est un homme après 23 ans de prison, dont 11 à l'isolement. Le sort des malades à l'intérieur qui explique les évasions de Philippe, lesquelles remontent à 20 ans. Les conditions réelles de sa libération conditionnelle de 2009, un cadeau empoisonné. En fait, en faisant exister quelqu'un qu'on aurait voulu éliminer. L'année dernière, la cour d'assises avait éliminé un prisonnier anonyme. Cette année, les jurés ont exécuté, en toute conscience et connaissance de cause, un homme fier et digne. Philippe, déjà condamné par la maladie, a survécu à une peine plus longue qu'une perpétuité réelle, 22 ans. Il en entame une deuxième à présent, aussi abominable et absurde que cela puisse paraître. Pendant les deux jours du procès, il est resté toujours digne, en réclamant seulement de pouvoir être le plus proche de la femme qu'il aime et qu'il aime, de pouvoir vivre dans notre monde, de pouvoir enfin aspirer la liberté.
Lorsque le verdict est tombé, il est encore resté debout, inébranlable dans sa force de vie. Nous, les grosses peines, on nous enferme jusqu'à la mort. Mais on va entendre parler de moi, lâchez rien. Moi, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il me reste? C'est la guerre, je vous la déclare. Les portes, elles vont pas exploser, elles vont aller jusqu'en Colombie. Faut pas s'étonner si on me revoit, si on me revoit aux assises. Nous, les grosses peines, dans les centrales, on va se réunir, vous allez voir. Cela nous a rappelé les paroles de Christophe Kider qui, alors qu'il venait lui aussi d'être condamné à vie pour une évasion, a comme Philippe d'abord pensé à ses camarades de souffrance. Lors du rendu de son procès du printemps 2013, « Je vais dire aux gens qui m'aiment de m'oublier, je vais briser ce qu'il reste de plus beau en moi et devenir ce que vous avez voulu faire de moi, un monstre. » La condition des longues peines en France n'est pas qu'une honte, c'est aussi une bombe à retardement. Ces hommes et ces femmes qui n'ont plus rien à perdre, on leur a tout enlevé, on les a éliminés de la vie sociale, pour reprendre les termes de l'avocat général Sylvestre, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus pour notre monde, pour reprendre ceux de l'avocate Delphine Bossol. Nous partageons avec Philippe cette solidarité avec ces hommes et ces femmes qui meurent de solitude dans les maisons centrales, à l'abri de nos regards.
Voilà, donc à travers cet exemple de Philippe Lallouel, donc c'était l'exemple qu'on a pris puisque c'est ça qui a fait l'actualité, mais bon, des prisonniers longue peine, il y en a plein et puis on aura encore plein malheureusement. Donc c'est toute une logique qui est en jeu. On voit bien là que le but de la prison, c'est pas d'isoler simplement les gens de la société pour les faire réfléchir parce qu'ils ont fait des bêtises et qu'après on les réinsérera quand ils auront compris, comme les enfants, là, vous voyez, qu'on punit quand ils font des bêtises. En fait, l'objectif là de ces condamnations, c'est bel et bien d'éliminer physiquement les individus. Comme le raconte un proche de Philippe, en fait, on est passé de la peine de mort à la peine jusqu'à la mort.
On a aboli la peine de mort en France au début des années 80. Et on a remplacé ça par des peines jusqu'à la mort. On est passé des peines de mort aux peines jusqu'à la mort. Okay. Et là, on est dans un système où, effectivement, aux années 80, c'était pas possible de se rendre compte. On n'avait pas encore les conséquences sous les yeux. Là, on les a. Mmh. Et là, c'est un système complètement qui est juste en train de complètement s'emballer, complètement fou. Et qui est plus capable de s'arrêter, et qui va fabriquer, effectivement, c'est pas simplement triste, c'est que c'est une situation explosive aussi. Et c'est juste, on enferme des gens sans leur promettre quoi que ce soit, juste en leur disant, vous êtes enfermés pour 40 ans, et on a même fabriqué des mouroirs pour eux, Condé sur Sarthe, qui a été construit il y a pas très longtemps, spécialement pour les longues peines, pour des mouroirs de la République.
Voilà, donc en plus on avait déjà eu l'occasion de parler de, par exemple, de Condé-sur-Sarthe là, je crois que c'était l'émission du mois dernier, et du coup on voit bien que là les logiques dans ces prisons là et dans ces peines, c'est bien d'enfermer des personnes considérées comme dangereuses de plus en plus longtemps sans leur donner d'espoir de sortie, à la différence de ce qui est prôné des fois en disant la prison en fait c'est juste après t'inquiète quand tu sortiras ça ira mieux. Là ces personnes là elles ont même pas d'espoir de sortie. Et c'est vraiment voilà donc pour les isoler le plus possible de la société, qu'on les oublie dans leur trou quoi. Il faut savoir par exemple que donc si on regarde un peu les évolutions judiciaires, donc ce qu'on appelle la peine de perpétuité, elle est allongée au fur et à mesure des réformes, passant d'une moyenne de 17 ans dans les années 80 à 24 aujourd'hui. Et donc pour ces peines de perpétuité, donc il y a un temps d'épreuve incompressible qui est le temps en dessous duquel on peut même pas espérer une libération même conditionnelle. Et ce temps d'épreuve, il est de 18 ans et 22 ans en cas de récidive. Donc voilà, c'est énorme et on peut évidemment toujours espérer des réductions de ce temps d'épreuve, mais jamais en dessous de la période de sûreté. Donc il y a une période qui est prononcée par un tribunal, des fois en l'absence des personnes. Donc sachant que même quand on arrive au bout de la peine de sûreté et qu'on peut donc commencer à envisager une libération conditionnelle, et ben c'est la croix et la bannière. Donc il y a tout un processus, il faut d'abord passer au Centre National d'Évaluation de Fresnes, donc où il y a des expertes, donc des psychiatres, des médecins et tout ça, qui vont décider de comment on va réussir à se faire aménager sa peine ou pas. Et au bout de 6 semaines donc au CNE, le Centre National d'Évaluation, il faut repasser devant une commission qui s'appelle la COPMES, Commission Pluridisciplinaire de Mesures de Sûreté, où on passe à nouveau devant des experts, des nanas. Et cette commission va décider si la personne est conditionnable ou pas, ce qui peut prendre encore des fois plusieurs mois. Donc autant dire que généralement, le temps que tout ce processus soit fait, et ben la personne est arrivée au bout de la peine. Du coup, au final, ça n'aura pas du tout avancé. On va écouter un témoignage de Patricia qui a été publié par le site L'Envolée en novembre 2013 et qui résume un peu cette situation.
C'est hélas notre triste destinée quand nous avons une longue peine. Tu as un jugement qui est déjà dur à traverser et ensuite on te colle une peine de sûreté alors que cette dernière n'a pas été prononcée à la barre. C'est un sacré coup dans les dents lorsque tu l'apprends plusieurs mois après ton jugement. Moi, depuis que j'ai appris ça, je suis tombée dans une profonde dépression et chaque jour est devenu un calvaire à vivre. J'ai bien tenté de la faire relever, mais celle-ci m'a été refusée sous prétexte que je n'ai pas de projet de réinsertion, alors que je suis en AH, adulte handicapé, et que je fais également ma demande trop tôt, alors que cette peine de sûreté se termine en janvier 2015, soit dans moins d'un an. Je suis permissionnable et conditionnable en même temps. Mais c'est pareil, on nous parle de conditionnel alors qu'on sait très bien que nous, les longues peines, on t'oblige à passer au CNE une fois que tu es conditionnable, c'est-à-dire 6 semaines à Fresnes, et ceci prend des mois avant qu'on te transfère dans cet établissement, ce qui fait qu'une fois que tu as terminé tout ça, tu arrives en fin de peine. En fait, c'est ce qu'ils veulent, que tu accomplisses ta peine entièrement. Donc, ma question est, à quoi sert le CNE ? Sinon à te détruire encore plus, puisqu'on revient en permanence sur ton passé, ton histoire, et ceci coûte cher à l'État, ces grands transferts ont un coût élevé. Donc des psys, tu en bouffes, si tu as décidé d'essayer de t'en sortir le plus vite possible. C'est comme se battre contre du vent, tu n'aboutis à rien, surtout quand tu arrives à un certain âge. Moi j'ai 56 ans, comment voulez-vous que je trouve du travail, hormis dans le bénévolat ? Mais ça, ils n'aiment pas trop. J'ai oublié de parler de la fameuse COMS, commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Ça, c'est après le CNE, où l'on te juge encore, et ça prend des mois tout ça. Donc oui, c'est un vrai parcours du combattant pour espérer la liberté. J'espère que ces quelques lignes seront publiées, car nous sommes sûrement nombreux dans ce cas-là, et c'est donc décourageant de vivre ça. Du fond de ma petite cellule, je remine jour après jour, du courage pour survivre, oui, il en faut, mais là, je suis fatiguée. Merci à tous.
Voilà, donc on voit bien que le système des longues peines, il est tellement bien conçu que même si les personnes réussissent à ne pas mourir en prison malgré tout ce qu'on leur impose et qu'elles arrivent à sortir après de longues années, en fait, rien n'est prévu pour les repréparer à la vie en dehors de la prison. Du coup, quand on a passé 20 ans ou plus dans une prison, des fois, on a un peu du mal à se réadapter au monde extérieur. Souvent, le système fait de ces personnes ce qu'un proche de Philippe Lalouel a appelé des handicapés de la liberté.
Qu'est-ce que c'est une longue peine quand il sort ? C'est-à-dire quelqu'un qui est plus capable d'ouvrir une porte lui-même, qui est... Enfin, c'est vraiment... Il a, et ça c'était vraiment aussi... Philippe l'a beaucoup dit aussi, il décrit, voilà, qu'est-ce que c'est la prison ? Ça fabrique des handicapés de la liberté, complètement. Des gens qui ne savent plus comment faire. Je veux dire qu'il y a trop de prisons, trop de... Avec le système infantilisant qui est la prison,
Donc, voilà. Et puis, du coup, il faut voir que même si c'est quand même hyper dur quand on est sorti de ces longues peines de se réadapter, quand même, l'État français n'a pas très envie que les gens sortent et se réadaptent. Du coup, le but là, c'est vraiment d'enfermer les gens le plus longtemps possible. Donc, en 2008, l'État français a inventé la rétention de sûreté. Donc, c'est une nouvelle procédure qui vise à permettre le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Alors voilà, c'est un autre mot pour dire qu'en fait, c'est un mélange entre une prison et un hôpital psy. Du coup, de placer des prisonniers, des prisonnaires ayant déjà exécuté leur peine, du coup, ayant fait ce pour quoi ils ont été condamnés, mais qui, je cite, présentent un risque très élevé de récidive parce qu'ils souffrent d'un trouble grave de la personnalité. Donc autrement dit, s'il y a des experts de la paix ou des psys qui trouvent qu'une personne peut potentiellement présenter un danger, elle pourra rester enfermée tout le reste de sa vie dans ces prisons qui ne disent pas leur nom. Du coup, là, on oublie carrément le principe de justice de punir un délit qui est puni par la loi. Et juste là, on enferme des personnes qui potentiellement peuvent représenter des dangers pour la société. Vu comment c'est difficile une fois qu'on est sorti de pas se faire attraper par le système, on imagine bien que aucun juge d'application des peines, aucun SPIP ou aucun psy ne va prendre la responsabilité de remettre en liberté une personne qui potentiellement pourrait commettre de nouveaux délits. Du coup, on l'enferme préventivement, c'est plus simple. Donc ce système qui pour le moment est évidemment, je dis évidemment, c'est ironique, hein, réservé aux crimes les plus graves, mais qui va probablement s'étendre assez rapidement. C'est à rapprocher du système suisse d'internement à vie, donc qui est codifié dans l'article 64 du Code pénal suisse, et qui permet aux autorités judiciaires et psychiatriques d'interner sans date de sortie toute personne présentant un risque de commettre d'autres infractions. Donc là aussi, ça veut absolument rien dire. Et c'est donc ce qu'explique Marco Kamenich, donc qui est un militant anarchiste et antinucléaire notamment, emprisonné de longue date en Suisse, notamment suite à une cavale, et pour lequel la justice suisse refuse d'envisager toute forme d'aménagement peine. Donc il y a une interview qui a été publiée sur le site Indymedia Grenoble, où il revient un peu sur cet internement, sur ses combats, et sur comment il arrive malgré tout à se maintenir en vie et en lutte. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Pleine liberté, semi-liberté ou liberté conditionnelle. Vous avez droit à toutes ces possibilités depuis des années et on continue à vous les refuser. Ont-ils peur à ce point de vous ?
Mon cas est particulier. Quand il a peur, le pouvoir a toujours répondu par la répression. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte social potentiellement explosif qui s'est détérioré ultérieurement à cause de la crise. L'article 64 du Code pénal qui permet que n'importe qui puisse être emprisonné à vie sans aucune relation avec le délit est la conséquence de cette peur traduite en répression.
En 2018, après 28 années en prison, votre incarcération devait prendre fin. Qu'est-ce qui vous manque le plus en dehors de la liberté ?
Une compagne, à sa sortie d'une longue détention, m'a dit « Ce fut le jour le plus triste de ma vie. Je crains qu'il en soit de même pour moi. Tu es rentré dans certaines choses, tu as des prétentions et tu sais que quand tu sors, tu ne seras pas libre, mais tu vivras dans la prison qui t'est imposée par la société. Ce jour-là, tu pourras donc penser « C'est pire que lorsque je suis entré. » Ou bien « Regarde quelle immense défaite. » D'un autre côté pourtant, pour parler d'une manière égoïste, ce qui me manque le plus, c'est la possibilité d'être présent pour ceux envers qui j'éprouve amour ou affection. Dans les coups durs, tu peux être une épaule, une personne sur qui on peut compter n'importe quand. Voilà, quand tu es en prison, cela ne peut pas le faire.
Votre esprit court en liberté depuis 20 ans, mais votre corps est enfermé. Comment trouvez-vous la force de résister ?
Les évidences incontestables et la foi dans l'humain. Mais ce qui me soutient, c'est surtout ce qu'on appelle le bien vivre avec les autres, ou pour le dire autrement, la solidarité. Pour aller jusqu'au fond des choses, j'ai besoin du soutien de ceux qui m'aiment, chacun suivant ses possibilités.
De votre point de vue, est-il encore possible de changer radicalement la société, ou sommes-nous désormais condamnés à l'autodestruction ?
Nous avons peut-être atteint le point de non-retour avec les nucléaires, les nanotechnologies et autres découvertes technologiques dont on sous-évalue la désastreuse potentialité pour l'humanité, comme ce fut le cas pour l'amiante, mais cette fois avec des risques encore plus grands. Nous avons malgré tout un devoir à l'égard de la vie, celui de ne jamais faiblir. Tant que quelqu'un résiste, il y a de l'espoir.
Donc on voit bien à travers le témoignage de Marco Kamenich l'importance pour des personnes condamnées à des longues peines, encore plus que pour les autres, de maintenir du lien avec l'extérieur. Du coup, l'importance pour nous, à l'extérieur, de leur montrer notre solidarité, justement pour casser cette logique d'élimination sociale qui voudrait que ces individus-là disparaissent de notre société. Et pour le mot de la fin, je vais laisser un proche de Philippe Lallois s'exprimer.
On ne laissera pas ces gens mourir dans l'oubli, quoi.
Le 24 janvier dernier, Philippe El-Shenaoui sort de la maison d'arrêt de Fresnes après 38 ans de prison. En théorie, il n'était pas libérable avant 2032. Il a pu déposer une demande de libération conditionnelle et donc obtenir une liberté sous bracelet électronique qu'à la suite d'une grâce présidentielle partielle qui a annulé sa période de sûreté. Cette grâce faisant suite à des années de combats judiciaires et de grèves de la faim répétées. Incarcéré en 1975, il a passé 19 ans en quartier d'isolement, subi plus de 40 transferts. Il a également été interné 6 ans en UMD, unité pour malades difficiles, suite à une grève de la faim. En 2011, il réussit à faire condamner la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant. Des parcours du combattant comme celui de Philippe El-Shenaoui, il en existe d'autres, comme le cas d'Abdelhamid Akar, par exemple, qui a été libéré le 18 mars 2012, après 27 ans de prison. Il doit encore purger 10 années de liberté conditionnelle et il est actuellement sous bracelet électronique. Il était libérable depuis 2000, mais ses demandes de libération étaient systématiquement rejetées. Donc on reviendra après sur les raisons pour lesquelles il n'a pas pu être libéré avant 2012. Il a connu 12 ans de quartier d'isolement, 45 transferts. En 2006, il a fait partie des 10 de l'appel de Clairvaux, qui réclament à ce moment-là le rétablissement de la peine de mort pour eux-mêmes et dénoncent l'hypocrisie des peines à vie. Arrêté en 1984, il est condamné à perpétuité en 1989. En 1995, il fait condamner la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci, reconnaissant l'iniquité de son procès, il en obtient l'annulation et la révision. Il est donc rejugé en 2003, puis en appel en 2005, où il écope d'une nouvelle peine de réclusion à perpétuité avec 16 ans de sûreté. Pour autant, absurdité du système judiciaire oblige, sa condamnation initiale n'est pas annulée, alors même que c'est la remise en question de celle-ci qui justifie ce nouveau procès. La raison pour laquelle Abdelhamid Akar a dû attendre 12 ans avant d'obtenir une libération conditionnelle est que les cours de Tarbes et de Pau n'arrivaient pas à fixer la fin de sa période de sûreté. En effet, les deux cours n'étaient pas d'accord sur la date de début de sa peine. Et accrochez-vous bien, du coup, la question était de savoir si sa peine commençait en 1984, c'est-à-dire date de son incarcération, ou en 2005, date de sa peine définitive. C'est-à-dire qu'éventuellement, il faisait plus de 20 ans de prison pour le plaisir, entre guillemets, puisque du coup, une des cours voulait ne pas reconnaître...
En bonus,
voilà, exactement, c'est ça. Ce qui aussi, par extension, avait des conséquences sur l'intégration ou non des quatre peines pour évasion dans sa période de sûreté ou pas. Donc il a fallu attendre 2008 pour que la Cour de cassation reconnaisse le fait que sa peine avait bien débuté en 1984 et que toutes les peines qu'il avait eues soient incluses, soient confondues dans sa condamnation à perpétuité. Et comme par cela que soit confirmé le fait qu'il était libérable depuis déjà plus de 8 ans. Donc voilà, comment à un moment donné on obtient ses possibilités de liberté bien plus tard que au moment où cela aurait pu être effectif. Donc il y aurait actuellement 500 condamnés à perpétuité, soit 3 fois plus qu'il y a 30 ans. Parmi eux, on peut compter Casanova Agamemnon, qui du coup purge en est à 43 ans de prison, Serge Lebon, 40 ans de prison, Jean-Luc Rivière, 34 ans de prison. Selon Étienne Noël, leur avocat, ils ont été des oubliés par le système, ou par exemple, pour le cas de Casanova Agamemnon, les juridictions préconisent qu'il soit d'abord transféré à La Réunion avant d'envisager un aménagement de peine. Mais le problème, c'est que l'administration pénitentiaire refuse de le transférer à l'île de La Réunion, donc du coup, par extension, il n'y a pas d'aménagement de peine envisagé dans son cas. Il y a également le cas de Lucien Léger, qui a été condamné en 1966 à la perpétuité. Libérable à partir de 1979, il purgera 41 années de prison après 13 demandes de libération conditionnelle et 3 demandes de grâce présidentielle qui lui seront évidemment refusées. Lucien Léger sera libéré en 2005 et décédera en 2008. Donc c'est aussi souvent le cas dans le cadre de longues peines, mais de façon de prisonniers en général. Il est assez fréquent que quand des prisonniers obtiennent des libérations pour des personnes qui sont assez âgées, que ça se fasse quand on sent que la personne va un peu passer l'arme à gauche et qu'il vaut mieux dégonfler au maximum les chiffres de décès au sein de la prison et donc faire sortir les gens pour que, quitte à ce qu'ils décèdent, que ça soit à l'extérieur.
Moi, je voulais rajouter un petit truc sur les longues peines que j'ai oublié de dire dans ma présentation tout à l'heure, c'est que il y a aussi ce truc de comme on passe notre temps, l'étape française passe son temps à rajouter, à rallonger les peines et tout ça. En fait, ça fait vraiment ce truc de désespoir, quoi. En fait, on va jamais en sortir, quoi. Quand on se prend 27 ans de prison et qu'il y a 22 ans de sûreté, on se dit bah en fait c'est bon. Et du coup, en fait, rien que ça, de fait, ça pousse à ce qu'on appelle la délinquance, que ça fait qu'en fait plein de gens juste ils s'évadent. Parce qu'en fait, entre mourir en prison, rester 20 ans à mourir en prison, ou tenter le coup de s'évader, quitte à se faire reprendre derrière, et ben les gens ils préfèrent s'évader. Et du coup, voilà, ils s'évadent et puis probablement après ils vont refaire un petit braquage ou un truc illégal parce que en fait on vit dans un monde où on a besoin d'argent. Et du coup, en fait, comment aussi ça s'auto-alimente, quoi. Du coup, après, quand ils s'évadent, et ben quand ils sont rechopés, ils se reprennent une peine encore plus importante que la peine d'avant pour leur faire comprendre que. Sauf qu'en fait, ça leur fait rien comprendre du tout. Ça leur fait juste comprendre qu'il faut qu'ils se réévadent. Enfin, voilà, c'est ce cycle infernal.
C'est cercle vicieux, en fait, qui est assez récurrent dans des parcours de longue peine. C'est vrai que il a été rapidement évoqué, mais Christophe Tilleider est aussi un peu un prototype de ça, c'est-à-dire prendre une longue peine, à un moment donné, se faire la malle ou tenter de se faire la malle et du coup reprendre à nouveau une peine par-dessus et une peine et que avant là où il y avait davantage de confusion de peine aussi, maintenant les confusions de peine sont plus automatiques, ce qui fait que les peines s'accumulent et s'additionnent au lieu à un moment donné se fusionner et où en général dans les confusions de peine c'était on gardait la plus longue et puis toutes les autres du coup passaient dedans en fait, ce qui maintenant ne se fait plus du tout, plus les réductions de peine qui sont maintenant
de plus en plus difficile à obtenir.
Exactement. Mais ça, c'est aussi la logique. Mais de toute façon, c'est ce qu'expliquait Jean-Marc Rouillant. C'est, je crois que c'est lui qui le disait, c'est qu'à partir du moment où la peine de mort a été abolie, il y a eu de fait aussi
quelque chose en remplacement. Cette mécanique,
cette mécanique qui s'est créée, voilà, de longues peines. Et puis, de toute façon, aussi très logiquement, plus on cumule des courtes peines, enfin on crée des nouveaux délits et donc du coup on crée des courtes peines, plus forcément la pression fait que les longues peines deviennent toujours un peu plus longues et que ça se rallonge et que là où avant pour des délits on prenait 15 ans, pour les mêmes délits à présent on va en prendre 25, 30 et du coup c'est des logiques des logiques infinies, hein, qui sont juste dans un mouvement de croissance, c'est pas du tout un mouvement de décroissance. En tout cas, c'est vrai que la logique actuelle, c'est que ça va juste aller en s'empirant. Et puis
on maintenant, enferme beaucoup plus et plus longtemps.
Voilà. Et puis maintenant qu'il y a des prisons mouroirs, soi-disant, il y a pas de souci, ce qui est une erreur, puisque ce qui se passe actuellement à Condé-sur-Sarthe montre bien que ne donner aucune perspective de sortie et enfermer les gens dans des tombeaux, ça n'a pas l'air d'être bien. Enfin, d'une réussite, et que du coup, de fait, ça provoque des mouvements de révolte.
Raison, ouais.
Voilà. C'est pas comme ça qu'on va vider les prisons. Puisque c'est l'objectif proclamé de certaines personnes, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre.
Du coup, on va enchaîner avec un petit morceau de musique d'une rappeuse barcelonaise qui s'appelle Boca de Baba. Et le morceau s'appelle Trazar Hechos, et elle parle des fiestas, de ce qui se parle dans les fiestas, et appelle à la solidarité avec les prisonniers et prisonnières.
Les fiestas, c'est les modules d'isolement en Espagne.
Amigo del jodido dolor, ruido que sobra en la obra, eres muro en el camino, eres alambre de espino, eres la ausencia del don, y así cabrón, dominas aunque perdido, Prieto, a ti te digo, Prieto, yo si quiero un tío, tío, ven liga conmigo, aquí te pillo, aquí te, que si te pones a tiro, te dedico mi bolsillo, mírame como sonrío, aprieto dientes, tiro fuerte de este maldito gatillo, ven y listo, una O en tu flequillo, como has visto este espejismo provisto de dramatismo, no es un libro de argumentos, pero al menos es conciso, quizá cambiemos el arma por un bate o un martillo, y ahora vuelvo al estribillo, que solo leo venenos y releo lo que he escrito, así te esquivo, así te esquivo. Tengo, tenemos que empezar a trazar hechos, que insoportable esta visión del mundo enfermo, termómetros de hielo eternamente ardiendo, dolores, siempre, siempre este mismo lamento, y tengo, tenemos que empezar a trazar hechos, que insoportable esta visión del mundo enfermo, termómetros de hielo eternamente ardiendo, dolores, siempre, siempre este mismo lamento, y cuando construyes un centro con ladrillos de miseria, el odio será la respuesta, y estas letras son la muestra, que aunque muestren tanto odio, ese odio queda en letras, pero piensa que por más perros que adiestres para difuminar la guerra, esta rabia que sentimos por ahora
es nuestra fuerza.
Vous êtes toujours à l'écoute des Murs des Oreilles sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Les Murs des Oreilles, c'est l'émission anticarcérale. Et on va enchaîner avec une autre rubrique.
Oui, ce soir, donc après le mois dernier avoir parlé de la mutinerie, j'avais envie de parler de ce soir du mur, hein, donc le mur des oreilles, les murs des prisons, et puis c'est les murs qui enferment, hein, on vient de parler des longues peines, et on va d'ailleurs y revenir un petit peu. Ces murs ont un rôle très fort dans l'enfermement, donc c'est quoi un mur? Bon, bah, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est, alors il y a plein de significations, mais il y a déjà une première signification qui est celle de l'ouvrage, qui est construit pour soit protéger, soit défendre, soit délimiter la propriété privée. C'est aussi un mur qui peut être fait pour être beau ou tout simplement pour enfermer. Alors il y a des exemples de murs très célèbres, hein, le mur de Berlin, mais il y avait des murs bien plus fameux, peut-être beaucoup moins fameux, mais qui ont été construits bien avant, qui avaient aussi un rôle important qui permettent de bien montrer à quoi servaient les murs. Il y a par exemple le mur des fermiers généraux qui avait été édifié pour ceinturer Paris juste avant la Révolution. Et son rôle, c'était simplement de pouvoir que le roi perçoive l'impôt sur toutes les marchandises qui rentraient dans Paris. Un autre mur qui avait un rôle comme ça de contention, c'est le mur de la peste qui était édifié qui est un peu dans les années 1700-1720 au moment où la peste a frappé Marseille, et c'était un mur qui était là pour comme son nom l'indique défendre le reste du territoire contre la peste qui allait menacer d'envahir tout le territoire. Alors plus récemment, il y a de nombreux murs qui ont été construits, hein. Il y a le mur érigé par Israël autour des territoires palestiniens. Il y a un mur à Padoue qui a été érigé, c'est le mur anti-délinquant, donc pour défendre la ville des bons bourgeois contre les pauvres qui menacent de les agresser. Et puis il y a aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, hein, partout maintenant dans le monde occidental, donc un peu dans tous les pays où il y a un peu des riches, ben il y a des gens qui veulent se faire enfermer, ils demandent d'être enfermés, donc ce sont tous ces habitants qui vivent derrière des murs dans des îlots d'habitation ultra sécurisés avec des gardes, et c'est un phénomène qui se généralise beaucoup. Alors si les murs ont toujours existé, il faut voir que depuis le XXIe siècle, hein, j'ai fait une petite chronologie, il y a 14 murs qui ont été érigés depuis 2000, soit entre des pays, soit à l'intérieur de certains pays. Donc le mur est vraiment un objet très à la mode. Alors le mur, c'est quoi? C'est le témoignage, au-delà d'enfermement, c'est d'abord un témoignage de tension. Un mur apparaît quand un conflit ne peut pas être résolu, et donc c'est un petit peu la solution brutale de la séparation totale pour empêcher que le conflit s'étende. Le mur, c'est aussi le reflet de l'obsession des frontières, hein. C'est vraiment la défense de son chez-soi, c'est pour rester entre soi. Les autres sont soit enfermés à l'extérieur, c'est le mur frontière dans ces cas-là, ou alors les autres sont enfermés à l'intérieur, c'est typiquement le mur de la prison. Alors si on continue un petit peu à pousser, le mur, c'est quoi? C'est ce qui marque le territoire de l'État. Alors ça le marque de différentes manières, soit une barrière un peu infranchissable, ces murs guerriers pour se défendre de l'ennemi, mais c'est aussi simplement des murs pour surveiller les frontières, ou des murs qui témoignaient de la puissance de l'État. Et à travers ce mur séparation donc de l'État, en fait, on voit aussi se construire, Rouillant en parle un peu, ce mur qui sépare la civilisation des barbares. Hein. Donc au-delà du mur, ce sont les barbares, les étrangers, puis à l'intérieur des frontières du mur de l'État, c'est la civilisation. Et d'ailleurs, donc pour reprendre Rouillan, faut pas rêver, il y aura pas de civilisation à l'intérieur des prisons, puisque la prison n'est pas construite pour être un objet de civilisation. À l'intérieur ne se déroule pas la civilisation, c'est ce qui est mis entre parenthèses de la civilisation. Et donc, pour prendre un autre exemple, la Chine s'est construite à l'abri de sa muraille, et c'est à l'abri de ces murs que les paysans cultivaient et ont construit en partie l'empire de Chine. Et mais c'était pas du tout pour leur bénéfice, c'était pour le bénéfice de cet empire chinois qui s'enrichissait sur le dos des paysans, qui les enrôlait de force, qui prélevait les impôts. On retrouve donc un mur qui est essentiellement la marque physique du contrôle de l'État sur un territoire. Et lorsque cet État ne peut plus, et même à l'intérieur de son propre territoire, lorsque l'État ne peut plus gérer les indésirables, les asociaux, ils n'hésitent pas à ériger ces murs à l'intérieur donc de ses propres frontières. C'est ce qu'on a appelé à un moment le grand refermement, et je pense que les longues peines dont on a parlé est certainement un aboutissement de ce processus entamé maintenant il y a plusieurs siècles, où on s'est mis à enfermer les gens de manière très rationnelle dans des asiles, dans des hôpitaux, dans des prisons. et on enfermait tous ceux qui remettaient en cause un peu l'ordre social, l'ordre, l'hygiène même de l'État établi comme la norme. Et donc, les murs finalement ont accompagné la lente émergence de l'État comme vraiment le cadre politique. Et si on pousse un petit peu plus loin, peut-être que c'est peut-être même le cadre politique du capitalisme qui s'est mis à tout envahir. Et sans murs, il y aurait pas d'État. Alors, ce qui est paradoxal, pour terminer sur une note un peu plus positive, certainement que les murs sont aussi les symboles de l'impuissance de l'État. Je l'ai dit au tout début, c'est lorsque le conflit devient irrésoluble, insolvable, que l'État se met à ériger un mur. Et puis, en fait, à la longue, à force d'observer un mur, on peut le franchir. Hein. Alors, il y a par exemple des tunnels qui sont construits actuellement sous les murs frontières, que ça soit par exemple à la frontière de la bande de Gaza avec l'Égypte, ou que ça soit en Arizona avec la frontière avec le Mexique. Il y a des émissions de radio qui essayent de franchir les murs, ne serait-ce que par onde, mais au moins qui tentent de retrouver du lien à travers ces murs. Et puis finalement, le mur, ça appelle à quoi? Ça appelle à l'évasion, et c'est peut-être son seul mérite.
Et du coup, puisqu'on parle de murs et d'enfermement et d'armes politiques de l'État, moi je voulais faire un petit détour par la Tunisie pour voir comment, du coup, dans ce contexte politique particulier, l'État n'hésite pas à enfermer des gens donc derrière des murs, et notamment donc des rappeurs. Donc en Tunisie, depuis la révolution, enfin avant la révolution, il y avait déjà des rappeurs évidemment, mais depuis la révolution, ça a explosé la scène rap hip-hop en Tunisie. Et du coup, donc il y a plein de rappeurs qui commencent à avoir une audience très importante dans le pays. Par exemple, il y a un rappeur reggaeman qui s'appelle Cafon, dont la dernière vidéo qui a été mise en ligne a obtenu 6 millions de vues sur YouTube, sachant qu'en Tunisie, il y a 10 millions d'habitants, donc c'est quand même un truc de ouf, et dont aucun parti politique tunisien ne peut s'enorgueillir d'avoir une telle audience. Et donc ce rappeur qui dit des choses que l'État et les autorités n'ont pas envie d'entendre, a été emprisonné, comme de nombreux autres, officiellement pour consommation de cannabis, puisqu'il faut savoir qu'en Tunisie il y a une loi qui punit la consommation de cannabis de 1 an de prison. Du coup, en Tunisie, si on fume un joint, on peut faire 1 an de prison. Et donc c'est une des armes qui est utilisée par l'État tunisien pour emprisonner des rappeurs, mais pas que des rappeurs. Donc il y aurait des chiffres qui circulent comme quoi en fait 60% des prisonniers tunisiens sont emprisonnés pour consommation de cannabis. Du coup voilà, c'est une des armes qui est utilisée. En France, on en a d'autres, mais en Tunisie, c'est celle-là, pour faire taire la contestation. Et donc, il faut savoir qu'il y a, depuis le début de la révolution, de nombreux rappeurs qui sont faits emprisonner sous ce prétexte-là ou sous d'autres prétextes. Pourquoi ? Parce que, en Tunisie, les rappeurs sont un peu les porte-parole de la jeunesse révoltée ou révolutionnaire, en fonction des moments, et qu'ils osent dire ce qu'on voudrait pas entendre, et notamment qu'ils osent critiquer, qui osaient critiquer évidemment le régime de Ben Ali à l'époque, mais qui même, depuis que le parti Ennahda est arrivé au pouvoir, donc les rappeurs tunisiens critiquent même ce nouveau parti, qui tient pourtant tellement à son image de dire que c'est un parti propre et intègre, et que eux ils font les choses bien, ils sont pas corrompus, alors qu'évidemment ils sont aussi corrompus que les autres. Et voilà, donc les rappeurs, c'est les personnes qui osent porter ce discours-là sur la place publique, dire en fait, nous on n'a pas fait la révolution pour avoir des islamistes barbus au pouvoir, on a fait la révolution parce qu'on avait des revendications sociales et économiques et politiques, et que ces revendications-là, elles ne sont pas abouties. Et voilà, du coup, il y a plein de chansons de rap qui parlent de ça, des rappeurs, donc il y a Weld El 15, Clay BBG, Cathy Bon, enfin voilà, plein de rappeurs tunisiens qui sont passés à un moment ou à un autre dans les prisons tunisiennes. Je voulais juste dire, pendant que je parle de ça, il y a un concert en fait le 20 février à Paris, où il y aura 8 rappeurs tunisiens qui seront là, et c'est un concert de solidarité avec Cafon, donc qui est pour le moment celui qui reste emprisonné, puisque Weld El 15 a pu sortir de prison finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, du coup, pour vous donner un peu un aperçu de qu'est-ce que c'est ce rap tunisien contestateur qui vaut à ses auteurs de se faire emprisonner, je vous propose d'écouter un morceau de Clay BBG qui s'appelle Hsieha Hulna. Et Hsieha Hulna, ça veut dire, en fait, on s'est auto-baisé, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a nous-mêmes voté pour des gens qui, ensuite, nous l'ont fait à l'envers, quoi.
Phoenix ou BBG دماغ بالسيستم وصلت قال لي قتنا نحبنا نشوف الخلاق الاحزاب في تونس اليوم اكبر وباء اين حومة الحماية قد سئمنا الحياة الحمشة يختصب وقال لك ممنوع الزنا خلقت طليقا كطيف النسيم
اللي لغة قديمة ما تشدش علي كاسكين هلموها نامي قانون ارحم عمي حطوني في الحنديرة خاطرني حليت فمي قانون تونس كسرنا كبي في راسي زعاني ردوني ريشرشي وقت اللي قلت الحق في فمي وقفني في الشارع زيت قوي في التلكي تتصل بالقاعة وتشدني من لاسلكي حرية التعبير في بلادي تونس محدودة ديما نقول في الحق ومنهبط الراس اللوطة المعارضة والحكومة لقها تشحير في يبودة انا الذي في تونس مقطعها للمكروتة كبش ولاد احرام خوف بلادنا كرهونا كتكلمنا وقلنا الحق قمعونا هدكونا طرتنا ديكتاتور انتخبنا ميبونا احشهونا حد خويا احنا حشينا هون
هوني باقي ماكش ممن
احشينا هون
هوني قافلات نكمل
استخدمنا هون
هوني باقي ماكش ممن
احشينا هون
هوني قافلات نكمل
استخدمنا هون قانون مضطرب شعب مكتئب حكومة تمك مش شاي تركرك ولا معارضة قاعدة تفدلك تونس بلادي وين وعدك لك مرضة تفوق شعب ونانا كل حفاة وانتم في نعمة دفاع في بنا الظلم ووفاة يا اخي طلعنا اخبياء احكام السلطة ورطة في تونس اخطر الوباء مواطن الشيحة كل جديدة الحرية عنده جديدة تحسب حسب تطلع ثورة مجيدة ما لفاسي هتلو جيدة نحرق سينا بالحكومة شنا بر الحبس ندكم بلعبة المظلومة الانتخابات الجاية ننتخب لحام الحومة المجتمع عكل بسهولة والنظام يمص فيه النعش حكاية حولة قد مغورة خارية فيه المسؤول الشباع والطحنة تسند فيه سيب عليك مكرسي ويجن قاعدك عليه ويجن قاعدك عليه كبشو كبشو ولاد احرام خوف بلادنا كرهونا كتكلمنا وقلنا الحق قمعونا هدكونا طردنا ديكتاتور انتخبنا ميبونا احشهونا حد خويا احنا حشينا هون
هوني باقي ماكش ممن
احشينا هون
هوني قافلات نكمل
استخدمنا هون
هوني باقي ماكش ممن
احشينا هون
هوني قافلات نكمل
استخدمنا هون احنا حشينا هون انتخبنا ميبون السلطة عقلية كراكة ونية هاتو نخ ولا معارضة تحشي فيه تنكف انو ما تشخ تشخ تشخ
قول عليهم هزوا لك سكاهم حطوا في بفسهم حبوا كان اخليهم نخليهم نخليهم ما جيتش باش نتفاهم نتفاهم جيت باش نبكيهم نبكيهم فيري غاني ميكودا ميكودا هزوا الحمام السيودة سيودة سيبو حميد وعبودة عبودة بابي جيت موجودة بوليتيك مكسم بزلي تحت وحاب ترافستي سيبو شعبي شايخ سيسابين السيستم خوبستي لوز دانتي بيسكم شوف بطلا ميسكم رافنا مسموح حتى كتير من رئيسكم
خوف كامل راح انا بتبعت انا دونجور فريوس نا سافا انا دونجور
Vous êtes toujours sur Radio Kaleidoscope 97 FM et c'est les Murons des Oreilles. Du coup, on arrive au terme de cette émission. Je vais faire quelques brefs pour terminer. Du coup, il y a eu une émeute dans le centre de rétention de Vincennes ce jeudi, 13 février. Alors, les médias parlent d'énormes émeutes. Le truc, c'est que ils précisent pas combien de personnes exactement se sont révoltées. On n'a pas trop de chiffres, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que suite à la tentative d'empêcher l'expulsion d'un retenu, les révoltés sont barricadés dans un baraquement et ont affronté les flics avec toutes sortes de projectiles, des extincteurs, des choses comme ça. Il y a eu des vitres brisées et des portes ont été endommagées. Et la réponse des flics a été apparemment assez violente, où il y a 23 équipes de répression qui sont intervenues, plus la BAC. Et d'après les premières infos qu'on a, il y aurait 5 personnes qui ont été blessées, du coup 5 retenues. Et que dans la journée du lendemain, il y a eu ni infirmière ni médecin qui étaient présents sur place, du coup personne pour pouvoir soigner les personnes, quoi. Et il y a 2 personnes qui ont été embarquées en garde à vue, qui ont été, selon les termes de la police, identifiées comme des meneurs. Et malheureusement, du coup, le retenu a été quand même expulsé. Et suite à ça, il y a plusieurs retenus qui ont déclaré qu'ils entamaient une grève de la faim suite à cette répression et en soutien aux retenus expulsés. Ensuite, une bonne nouvelle, une évasion au centre de rétention de Oissel en Seine-Maritime, où 8 personnes se sont évadées dans la nuit du 28 au 29 janvier. Donc vers minuit et demi, ils ont réussi à dévisser la grille de protection intérieure d'une fenêtre de leur dortoir et ont arraché le store en plastique pour sortir. Alors, ce que je vous dis, c'est des informations de Paris-Normandie, du coup, la presse bourgeoise. Merci. En quelques minutes, ils sont montés sur le toit d'une voiture et sont passés par-dessus le grillage de l'enceinte qui fait entre 2 mètres et 2 mètres 50. Ils ont ensuite traversé le chemin de ronde et enjambé le deuxième grillage coiffé par des fils barbelés. Le système d'alarme qui était en cours de rénovation a pu se mettre en route, mais il détermine pas le lieu avec précision. Du coup, ils ont galéré à trouver par où ils s'étaient échappés et à du coup pouvoir les poursuivre. Du coup, suite à ça, bien entendu, une grande chasse à l'homme dans la forêt environnante, où l'école de police qui est juste à côté du centre de rétention, il y a même les élèves de l'école qui ont été mis à contribution pour chercher les 8 évadés. Des chiens, etc. Enfin bon, bref, tout ce qu'on imagine de la chasse à l'homme, quoi. Et pour l'instant, ils ne les ont pas rattrapés. Du coup, c'est une bonne nouvelle et on espère qu'ils vont courir loin et qu'ils ne seront jamais rattrapés. Voilà, j'ai peut-être le temps de vous parler d'une dernière chose. Du coup, je voulais vous parler du projet du Son contre la prison, qui est un concert qui aura lieu le vendredi 9 mai 2014 à Ursa Minor, à Saint-Étienne. Du coup, je vais vous lire directement le texte de présentation du projet, ça donne toutes les informations. Le projet du Son contre la prison est né en 2010 avec la volonté d'envoyer un message de solidarité aux prisonniers et prisonnières, tenter de briser l'isolement le temps d'une soirée et de créer un moment d'unité via les ondes. Il s'agit concrètement d'un concert organisé par un collectif anticarcéral, concert qui est retransmis en direct sur des radios un peu partout en France pour qu'un maximum de détenus puissent l'écouter. Ce printemps 2013, 21 radios ont permis de diffuser du son contre la prison dans 43 lieux d'enfermement. Organiser ce genre d'événement est une façon pour nous de ramener la question carcérale sur le devant de la scène. Cette année, dans les médias de masse, on a entendu les discours humanistes de l'État français sur la lutte contre la surpopulation carcérale et sur la promotion des aménagements de peine. En réalité, le pouvoir durcit la détention. On continue de construire en grand nombre des prisons de plus en plus sécurisées et aseptisées, rendant les conditions de détention encore plus dures et l'isolement toujours plus prégnant. La répression de toute forme de contestation est bien sûr toujours aussi forte, accumulant les peines aux peines et reculant sans cesse l'espoir d'une libération. De la même manière, les projets comme celui de la contrainte pénale, bracelet électronique, contrôle judiciaire, ne visent pas à éviter d'aller en prison, ils tendent à mieux nous enfermer dehors. Si des moyens financiers sont systématiquement trouvés lorsqu'il s'agit de complaire aux gardiens, comme cela a été le cas suite à l'évasion de la prison de Séquedin au printemps, les revendications des prisonniers et prisonnières sont tues, alors qu'après tout, ce sont les premiers concernés par la machine pénitentiaire. Heureusement, des détenus lèvent la tête et ont le courage de dénoncer ce qu'ils et elles subissent de la part de l'administration pénitentiaire. Cette année sont sorties plusieurs lettres individuelles et textes collectifs, comme à Cess et à Neuvic-sur-Ils, pour rendre publiques ces situations et appeler à du soutien extérieur. La colère face à l'enfermement s'est aussi traduite par des mouvements collectifs, notamment cet été dans les prisons de Bourg-en-Bresse, Blois, Châteaudun et Bois-d'Arcy, où la révolte s'est propagée en quelques jours comme une traînée de poudre. Du son contre la prison, c'est aussi se faire l'écho de ces luttes, avec la volonté de développer les solidarités entre l'intérieur et l'extérieur, et ce à travers l'outil radio. C'est aussi se faire plaisir en écoutant du bon son. Le premier pas pour briser ces chaînes, c'est rompre le mur de l'indifférence. La solidarité est une arme, utilisons-la. Extrait de l'appel de la coordination de détenus italiens, septembre 2013. Si vous voulez en savoir plus, je vais y arriver. Lors de ce concert, il y aura aussi des interludes où ça sera possible de lire des lettres de détenus, on pourra parler de toutes sortes de choses. Et du coup, s'il y a des envies d'écrire des lettres pour qu'ils soient lus à l'antenne à ce moment-là. C'est possible d'écrire au collectif à l'adresse suivante, du son contre la prison, tout attaché, @riseup.net.
Et puis évidemment, le concert sera rediffusé en direct sur Radio Kaleidoscope.
Bien sûr.
Voilà, donc rendez-vous le 9 mai pour ça.
C'est entre 21h et minuit.
De 21h et minuit. C'est la fin de cette émission. Est-ce qu'on rappelle les contacts une dernière fois?
Alors, les contacts de l'émission radio, pour nous écrire par boîte postale, Les Murs ont des oreilles, Radio Kaleidoscope, BP 422, Grenoble 38018, et par mail à l'adresse suivante, lesmurs@riseup.net. Du coup, on se retrouve
dans un mois,
le 19 mars, mercredi 19 mars.
Salut.
C'est parfait tout ça.
À bientôt.
Bonne soirée.